Et le texte que l'on va lire va dire que cette parole, elle a une puissance énorme. C'est elle qui porte de fruits et qu'il va de progrès en progrès dans tous les endroits où elle passe. Et c'est cette parole-là qu'on va avoir aujourd'hui. Le texte se trouve dans Colossiens. Colossiens chapitre 1. On va commencer à partir du verset 1 et on va s'arrêter jusqu'au verset 8. D'abord, j'aimerais vous dire que je suis vraiment reconnaissant aujourd'hui parce que j'ai réfléchi à l'introduction que j'allais faire sur ce message. Et je vous avoue, j'ai trouvé quelque chose, mais je n'étais pas forcément satisfait. Et puis après, Michel, il a fait les annonces, il a parlé de cette puissance, ce progrès des églises évangéliques en France. Et je trouve que c'est la meilleure introduction pour ce message, parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, pourquoi il y a cette progression énorme des églises évangéliques. Donc, on va lire ensemble Colossiens, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 8. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, salue ceux qui à Colosse appartiennent à Dieu par leur union avec le Christ et qui sont nos fidèles frères en lui. Que Dieu, notre Père, vous accorde la grâce et la paix. Nous exprimons constamment à Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et sur ce que Dieu vous réserve dans les cieux. Et cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle, car cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à vous, comme elle est aussi présente dans le monde entier, où elle porte du fruit et va de progrès en progrès, ce qui est également le cas parmi vous. Depuis le jour, vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. C'est Epaphras, notre cher ami et collaborateur, qui vous a instruit. Il est un fidèle serviteur du Christ auprès de vous et il nous a appris quel amour l'Esprit vous inspire. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette opportunité que nous avons de pouvoir écouter ta parole, Seigneur, de pouvoir l'étudier et de pouvoir apprendre librement, Seigneur, sans être contraint. Je voudrais remettre entre tes mains ce moment, Seigneur, pour que ton esprit nous remplisse et pour que nous soyons vraiment disposés à écouter ta parole, Seigneur Jésus, et être prêts à être transformés par elle. Et je voudrais prier, Seigneur, exceptionnellement pour moi, pour que je puisse parler de ta volonté et uniquement de ta volonté. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, nous allons voir dans ce texte les conséquences de la bonne nouvelle dans la vie des chrétiens de la ville de Colosse. Mais avant de rentrer dans le détail du texte, je vous invite d'abord à voir le contexte, à naviguer un peu. Alors, l'auteur de cette épître, comme vous le voyez au premier verset, c'est Paul. Donc, petit rappel, Paul, c'est un juif. Au départ, il s'appelle Saul. Il vient d'une ville qui s'appelle Tars. Il est un juif qui est très attaché aux traditions juives. Il a fréquenté une très bonne école avec un très bon enseignant qui s'appelle Gamaliel. Et puis, son première activité, c'était de persécuter les chrétiens. Donc, lui, il dit que les chrétiens, ils ont une fausse doctrine qui est en train d'altérer la religion juive. Et sa mission, c'est de persécuter les chrétiens. Et il fait partie des personnes qui ont approuvé la lapidation d'Étienne. Et puis, à un certain moment de sa vie, il voulait encore persécuter un peu plus les chrétiens maintenant en dehors de Jérusalem. Il voulait se rendre en Syrie, dans la ville qui s'appelle Damas. Et sur le chemin, bam! Il est tombé de son cheval. Il y avait une lumière qui s'affichait, pas qui s'affichait, mais qui est sortie en haut. Il y a Jésus qui dit, « Paul, Paul, pourquoi tu me persécutes ?» Et à partir de ce moment-là, il a reconnu Jésus. Il a rencontré une personne qui s'appelle Ananias, qui l'a baptisé. Et il a servi le Seigneur. On l'appelle aussi comme l'apôtre des gentils ou des païens, parce qu'il avait une mission essentiellement vers le monde en dehors de Jérusalem, vers les personnes que les Juifs appelaient les païens. Et au moment où Paul écrit cette lettre, il se trouvait en prison à Rome avec le frère Timothée. Quelques informations sur l'église de Colosse. Donc Colosse, c'est une ville qui se trouve dans ce qu'on appelle actuellement la Turquie. C'est une ville qui n'est pas très loin d'une autre grande ville qui s'appelle Éphèse. Et Paul y a séjourné pendant 2 ans, d'après certains livres, j'ai vu 3 ans d'après d'autres. Donc je veux dire, pendant un certain nombre d'années. Et il n'a jamais mis les pieds à Colosse. Mais celui qui a fondé l'église, on peut le voir au verset 7, c'est le frère Épaphras. Alors, l'histoire d'Épaphras, c'est qu'il vient de la ville de Colosse. Il est parti pendant un certain temps à Éphèse et là, il a entendu Paul. Il s'est converti au Seigneur. Il est revenu dans sa ville natale, Colosse. Et il a prêché l'évangile et l'église de Colosse a été fondée de cette façon. Je disais tout à l'heure que Paul n'a jamais mis les pieds dans cette église et c'est pour ça qu'il se présente d'une manière assez formelle au tout début en disant « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu ». Apôtre veut dire mandaté, donc il est mandaté par Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour prêcher l'évangile. La deuxième raison qu'il dit cet aspect aussi, c'est parce qu'à ce moment-là, en Colosse, il y avait pas mal de faux enseignants, une fausse doctrine qui commençait à circuler et qui altérait la bonne nouvelle. Et ce faux enseignement voulait que les chrétiens de Colosse rajoutent quelque chose à Jésus-Christ. Ils disent « Jésus-Christ, c'est bien, c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Il faut rajouter une certaine expérience. Pour les non-juifs, il faut que vous soyez circoncis. » Et ce que Paul veut dire dans tout l'épître à Colosse, c'est de dire « Non, Jésus-Christ est suffisant. » Vous avez tout dans Jésus-Christ. Et c'est dans ce contexte-là que la lettre aux chrétiens de Colosse est écrite. L'autre point que je voudrais aussi vous dire pour le contexte, c'est que ce qui m'avait marqué, c'est cette relation que Paul avait aux Colossiens. Donc, il ne les a jamais vus, mais on voit dans le texte qu'il a une certaine affection pour eux. On voit au verset 2 qu'il dit « Ceux qui appartiennent à Dieu par leur union avec le Christ et qui sont nos fidèles frères en lui. » Donc il les appelle frères fidèles. L'autre point que j'ai remarqué aussi, c'est au verset 3. Notre texte dit « Nous exprimons constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. » Il y a 2 choses qui m'ont marqué. De 1, Paul, il est en prison. Les cachots, ce n'est pas le meilleur endroit pour être joyeux, surtout pour remercier le Seigneur. Mais pendant cette période-là, il était reconnaissant envers Dieu au sujet des Colossiens. Deuxièmement, le mot « constamment ». Il exprime constamment une prière de reconnaissance pour ses frères. Je trouve ça assez fort. Dans d'autres versions, on dit sans cesse, c'est vraiment la même signification. C'est qu'il prie, il remercie Dieu. Merci Seigneur pour ses frères, merci pour ses frères, merci pour ses frères. Je me suis posé la question. Est-ce qu'on fait la même chose pour nos frères? Est-ce qu'on remercie Dieu constamment pour eux? Et je voudrais prendre un petit moment, 5 minutes, je vous invite à regarder les personnes autour de vous et à remercier le Seigneur pour eux, pour ce qu'ils sont, pour ce que le Seigneur a fait pour eux. Je vous donne 5 minutes et on va continuer la prédication. Merci tout le monde. Merci à vous tous. Pour aller plus loin dans la mise en pratique, j'ai trouvé ces propositions suivantes. Vous êtes libre de les appliquer ou pas. Prenez la liste des membres de notre Église et puis prenez un peu de temps pour prier pour eux, pour rendre grâce à Dieu. L'autre proposition que j'ai vue, c'est que prenez aussi des photos des missionnaires que l'on soutient. Josué nous a fait un joli livret pour les missions de l'AECM. Et regardez les photos et priez pour ces missionnaires qui travaillent dur pour le Seigneur. N'oubliez pas de prier pour notre pasteur et son épouse. Maintenant, on va continuer notre texte. On va voir c'est quoi le sujet de remerciement, de reconnaissance que Dieu, que Paul pardon, adresse à Dieu. On voit ça à partir du verset 4. En effet, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Je continue au verset 5. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Et cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle. Pour résumer, on voit trois choses. D'abord, la foi des chrétiens en Colosse. De deux, l'amour des Colossiens qu'ils portent envers les frères et les sœurs, voire même en dehors de Colosse. Et troisième point, l'espérance des Colossiens sur ce que Dieu réserve pour eux dans les cieux. On va essayer de voir un à un ces trois points. Le premier, c'est la foi dans le Christ Jésus. C'est ce qui est dit dans le texte. Alors, c'est quoi la foi dans le Christ Jésus? Je trouve que c'est assez, comme on dit, challenging d'expliquer ce que c'est la foi. Et j'ai essayé de lire certains textes et j'ai trouvé quelque chose. Donc, d'abord, la foi, c'est pas seulement le fait de croire en l'existence de Dieu et de Jésus-Christ. Il y a un verset qui est très violent qui dit ceci. Tu crois qu'il y a un Dieu, c'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Et ils acceptent l'existence de Jésus-Christ et de Dieu et ils tremblent parce qu'ils savent, qu'au jour du jugement, Dieu va les éliminer. Donc, la foi, ça va au-delà d'une acceptation que Dieu, Jésus-Christ, existe. J'ai lu un livre qui disait que la foi en Christ Jésus implique trois aspects de notre être. L'intelligence, les émotions et la volonté. L'intelligence, parce qu'il faut comprendre la véracité de l'Évangile. Les émotions, parce qu'il faut ressentir la conviction et le besoin d'être sauvé. Et le troisième point, la volonté, qui est très importante, parce que c'est un engagement à s'attacher, à suivre et à obéir Jésus-Christ. Cette foi en Jésus-Christ doit produire des résultats qui sont palpables. Comme dit Jacques chapitre 2, verset 26, la suite du verset que j'ai lu tout à l'heure, « Car le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. » Un autre missionnaire traduit aussi le verbe « croire » par cet aspect qui dit « s'appuyer fermement sur Jésus-Christ ». Je trouve que c'est aussi un verset que l'on peut mettre en pratique. Donc, quelques aspects pratiques. Comment l'Église peut manifester sa foi en Jésus-Christ? De un, en s'attachant à Dieu et à sa parole. De deux, en obéissant à cette parole de Dieu. Et de trois, quand l'Église dérape, elle se repent à Dieu. Ça, c'est la foi. Ensuite, on va voir l'amour envers les saints. Une des mises en action de la foi des Colossiens est d'aimer les uns et les autres. Aimer les uns et les autres, c'est une obéissance au commandement de Jésus qui dit dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Alors, application. Comment l'Église peut manifester son amour envers les saints? J'ai trouvé quelques points, mais on peut toujours les rajouter. De un, ils devaient se rendre service et s'aider mutuellement. De deux, comme on disait tout à l'heure, prier les uns pour les autres. Un autre aspect qui n'est pas forcément facile, ils devaient pardonner facilement et librement. Et troisièmement, vu qu'il fait beau dehors, on peut s'inviter les uns les autres et passer du bon temps ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, je vous propose de passer au troisième point, qui est l'espérance. Moi, je donnais espérance des Colossiens sur ce que Dieu réserve pour eux dans les cieux. Paul dit que leur foi et leur amour sont fondés sur l'espérance de ce que Dieu leur réserve en haut. Qui, cette espérance elle-même, est fondée sur l'Évangile, la bonne nouvelle. Donc, avant de voir ce que c'est cette espérance, je vous invite à voir ce que c'est l'Évangile ou la bonne nouvelle. Je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais c'est bien quand même de rappeler. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, quand il a constaté notre nature pécheresse, quand il a constaté que nous ne pouvons pas se débrouiller tout seul pour sortir de cette nature pécheresse, il a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Il est mort sur la croix pour nous. Et pour cela, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Et les personnes qui acceptent ce sacrifice de Jésus et qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel et qui l'acceptent comme leur Seigneur, comme dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en lui, à l'assurance d'avoir cette vie éternelle, à l'assurance qu'il n'y a plus rien qui les condamne. Dans Matthieu 8, verset 1, il dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Et dans 1 Jean, chapitre 5, verset 13, il dit « Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Je voudrais aussi vous lire 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, qui dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. » Et c'est cette espérance-là qu'avaient les Colossiens, d'être sûrs qu'ils ne sont plus condamnés et qu'ils partageront l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette espérance, en plus de nous pousser à avoir la foi en Jésus-Christ et l'amour pour les frères, cette espérance, elle change aussi notre manière de voir la vie. J'ai trouvé ça en deux points. Le premier point, c'est que les obstacles que l'on fait face, les souffrances que l'on subit dans cette vie sont négligeables quand on les compare à ce qui nous attend dans l'avenir. Le deuxième point, c'est que les biens que le monde cherche à acquérir sur cette terre deviennent éphémères pour nous, parce que ce qui nous attend là-haut est largement plus grand à ce que tout le monde essaie d'avoir sur la terre. Je vais résumer rapidement. Paul est reconnaissant envers Dieu pour trois points chez les Colossiens. D'abord, la foi, l'amour et l'espérance. Je pense que ça vous rappelle un verset dans 1 Corinthiens 13 qui dit, voilà ce qui reste, la foi, l'amour et l'espérance. Mais le plus grand de tous, c'est l'amour. Et tout ça, c'est basé sur une chose qui s'appelle la bonne nouvelle. Je vous expliquais tout à l'heure la bonne nouvelle, mais il y a aussi un élément important que Paul nous donne à propos de cette bonne nouvelle. Au verset 6, il dit « Car cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à vous, comme elle est aussi présente dans le monde entier, où elle porte du fruit et va de progrès en progrès, ce qui est également le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. Dans ce verset, Paul nous dit que cette bonne nouvelle a une puissance en elle-même. Et cette puissance-là lui fait en sorte que là où elle passe, elle porte du fruit. Il y a des gens qui se convertissent, il y a des gens qui sont convaincus de leur péché et qui sont convaincus du fait que Jésus-Christ est mort pour eux, pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle et qu'ils l'acceptent comme leur Seigneur personnel. Et il dit que cette puissance-là, vous le constatez très bien à Colosse, mais en fait, ce n'est pas uniquement vous, c'est vraiment dans le monde entier, partout, là où je suis passé. Et pour moi, personnellement, ça me rassure, parce que finalement, la prolifération de cette bonne nouvelle, elle ne dépend pas de la qualité ou du charisme du prédicateur, parce que moi, je ne pense pas que j'en ai, ni de la pertinence des arguments utilisés. Bon, j'avoue, je n'ai pas vraiment le sens de la répartie dans les discussions, mais je sais que la parole de Dieu, elle, elle est pertinente, et elle ne dépend non plus des méthodes qui sont adoptées. D'autres personnes disent, il y a une astuce pour tactique pour vraiment bouleverser les gens, en faisant des chants qui font un peu pleurer, et là tu insistes très fort, et là les gens, ils se convertissent tous. Non, c'est cette parole de Dieu qui est puissante, c'est elle qui transforme les gens. Par contre, il faut une personne fidèle qui puisse l'enseigner. C'est ce qui est dit au verset 6. « Car cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à vous, comme elle, pardon, au verset 7, c'est Epaphras, notre cher ami et collaborateur, qui vous en a instruit. Il est un fidèle serviteur du Christ auprès de vous. » La parole en elle-même, elle a besoin de tuyaux pour être transportée partout, pour arroser toutes les plantes. Et c'est nous qui sommes ce tuyau. Et de plus, ce que j'ai trouvé aussi, c'est la relation qu'il y a entre Paul et Epaphras. Paul l'a formé d'abord. Une fois qu'il est formé, il est parti instruire d'autres. Et une fois qu'il a parti instruire d'autres, les autres aussi ont fait ça au fur et à mesure. Et c'est ça aussi qui fait en sorte que l'évangile prolifère. J'aimerais vraiment vous sensibiliser à cet aspect de faire des disciples. On aime bien venir à l'église pour être encouragé, pour louer le Seigneur ensemble. Mais n'oubliez pas que le Seigneur nous appelle aussi à faire des disciples. Choisissons une personne que nous voulons instruire, édifier, pour que lui, à son tour, puisse le faire à d'autres personnes. Et ça, c'est un verset que j'aime bien, qui se trouve dans 2 Timothée. Je vais vous le lire. De Timothée, chapitre 2, verset 2. C'est très facile à retenir, vous dites Timothée 222, et vous placez les deux au bon endroit. Il dit, « Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » Pour conclure, j'aimerais juste vous faire ces rappels et vous encourager à ces aspects, de prier les uns les autres, d'analyser dans votre vie sur les trois points, la foi, l'amour, l'espérance. Cette semaine, sur quelle partie vous voulez mettre l'effort pour grandir un peu plus. Et troisièmement, pensez à former des disciples, pour que la bonne nouvelle puisse proliférer. Cette bonne nouvelle qui est pleine de puissance puisse transformer des vies. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce moment que tu nous as donné pour écouter ta parole. Merci de nous avoir donné entre nos mains cette puissance, Seigneur, qui est ta parole. cette puissance qui est pleine d'amour, qui est pertinente, qui est vraie, qui est la vérité. Et aide-nous, Seigneur, vraiment à la partager autour de nous, à former des gens qui soient capables de la partager autour de nous. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.